Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, bonjour et bienvenue. Voici les titres de cette édition matinale. L'enquête sur l'affaire dite de harcèlement sexuel au sein de la Fédération malienne de basketball se poursuit à Bamako. Selon le bureau du procureur du tribunal de grande instance de la commune 4, de nouveaux témoins seront bientôt entendus. Plus de 1700 personnes déplacées vivent dans la région de Kuchala, selon la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de la localité. Ces déplacés sont dans des conditions difficiles et le service manque de moyens pour les venir en aide. Manifestation à Kaya dans la commune rurale de Awadembaya. Des jeunes en colère ont bloqué hier l'axe Kaya-Luntu où se trouve le barrage hydroélectrique de Felou. Ils réclament la réparation immédiate de ce tronçon. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Nous dirons assure la technique. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basketball des moins de 18 ans, Amadou Bamba, a été placé lundi sous mandat de dépôt par le procureur du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Une arrestation qui fait suite à l'enquête ouverte dans le cadre de l'affaire dite de harcèlement sexuel au sein de la Fédération malienne de basketball, relevée par le journal américain New York Times. Le point avec Hamsetou Touré.
Amadou Bamba a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le tribunal de la commune 4 du district de Bamako ce lundi 26 juillet 2021. Âgé de 51 ans, l'entraîneur des Aigles basketteuses U18 est soupçonné d'avoir échangé du temps de jeu ou des équipements en échange de faveurs sexuelles. Tout est parti de la publication d'une enquête du journal américain New York Times et Human Rights Watch. Cette enquête a révélé des cas d'abus et de harcèlement sexuel au sein de la Fédération malienne de basketball entre 1999 et 2011. Des faits que le président de la Fédération malienne de basketball d'alors, Aman Niang, aurait largement ignoré, indique le document. Selon l'enquête, au moins 3 joueuses ont témoigné avoir été agressées sexuellement ou harcelées. Dans un communiqué publié ce mardi 27 juillet 2021, le ministère de la Jeunesse et des Sports affirme prendre acte de la procédure judiciaire. Il souhaite aussi que toute la lumière soit faite sur tous les dossiers relatifs au harcèlement sexuel dans le monde du basketball malien.
Selon le parquet du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako, l'enquête sur cette affaire se poursuit. Cependant, le bureau du procureur affirme qu'elle est actuellement ralentie du fait que certains témoins se préparent pour des compétitions mondiales. Marco Sissoko, substitut du procureur de la commune 4, est au micro de Hamsetou Touré.
On a reçu des plaintes de certaines basketteuses faisant croire qu'il y a ces pratiques contraires aux bonnes mœurs dans leur milieu. Et le parquet a immédiatement ouvert une enquête qui a abouti par l'inculpation d'un coach qui a non seulement été inculpé mais placé sous mandat de dépôt pour viol, pédophilie et attentat à la pudeur. Il y a une plainte. S'il y a plainte, donc nous on ouvre une enquête. Maintenant, c'est au juge d'instruction de déterminer les preuves. S'il y en a, parce que le juge d'instruction, il informe à charge et à décharge. Donc, c'est à lui d'apporter les preuves maintenant qu'effectivement les infractions qui leur sont reprochées sont réellement vraies. Donc après, il va saisir une juridiction de jugement. Bon, si l'information prouve qu'en réalité, les infractions dont on leur reproche existent réellement, il va y avoir un jugement et il y aura des condamnations par la suite. Ça va jusqu'à la réclusion criminelle. Ça va jusqu'à 20 ans ou à la réclusion criminelle. L'enquête est en cours jusqu'à présent parce que voilà, ce qui relance un peu l'enquête, c'est qu'il se trouve qu'il y a des filles qui sont à l'internat qui doivent aller au mondial.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les conséquences de l'insécurité au centre du pays sont visibles dans la ville de Kuchala. Ils sont à ce jour 1739 personnes déplacées, soit 269 ménages à trouver refuge sur place. Selon des responsables de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Kuchala, ces déplacés sont dans des conditions difficiles et le service manque de moyens pour les venir en aide. Les déplacés de leur côté affirment que leur situation humanitaire est dégradée et déplorent le manque de soutien des autorités. Ils lancent un cri de cœur à l'endroit des personnes de bonne volonté pour les accompagner à sortir de cette détresse. De Kuchala, nous retrouvons notre envoyé spécial Ousmane Nialibouli.
À Koutchala, les déplacés n'ont pas de site à leur nom. On les retrouve dans 3 quartiers de la ville de Koutchala et dans des localités à l'intérieur de la région. Ces déplacés se prennent eux-mêmes en charge, nous dit Madame Magasa Halimata Ouattara, directrice régionale du développement social et de l'économie solidaire de Koutchala.
Ils viennent chercher les logements pour les payer. Donc ils n'ont pas de ressources très sûres pour le paiement de ces logements-là. Ce qui fait qu'ils sont très instables. Ils bougent d'un quartier à l'autre à tout moment. C'est des logements qui sont souvent de la ou s'il y a pluie, ils dorment sous la pluie parce que ça rentre.
Selon ces déplacés, ils vivent dans des conditions déplorables et ils manquent de tout pour subvenir à leurs besoins. Selon eux, ni le gouvernement ni les ONG ne les viennent en secours depuis plusieurs années. Ali Bari, un des porte-parole des déplacés à Koutchala.
Les déplacés qui sont à Koutchala sont entre autres des Peuls, des Dogons, des Bozo et des Bambara. La ville nous a bien accueillis, mais les déplacés souffrent beaucoup. Certains ne parviennent pas avoir les 3 repas dans la journée. Les déplacés à Koutchala ne bénéficient rien de la part du gouvernement.
Tous les déplacés dans cette région sont enregistrés selon la direction du développement social. Le département précise que leurs services manquent des moyens suffisants pour satisfaire leurs besoins quotidiens.
Proprement pour les déplacés, nous on a fait une seule distribution. Et ça, ça a été fait lors du mois de la solidarité 2019. Ils ont été dotés de beaucoup de choses. Parce que nous, on ne peut rien faire dans ce sens-là. On n'a pas de financement, on n'a rien pour ça.
En attendant une solution à leur situation, ces déplacés prennent leur mal en patience. De Koutchala, Ousmane Nyalibouli pour le studio Tamani.
Autre sujet, logements sociaux. Une campagne d'enrôlement à l'assurance d'essai du fonds de garantie hypothécaire a été lancée hier à Bamako. Objectif, permettre aux ayants droit d'un bénéficiaire de garder la maison en cas de décès de celui-ci. Selon la directrice d'exploitation du fonds, 600 personnes ont bénéficié du programme et 60 autres sont en train d'être prises en charge. Le point avec Ali Sissé.
Ce fonds de garantie est une prime mensuelle que les bénéficiaires de logements sociaux doivent payer pour permettre à leurs ayants droit de rester dans les logements sociaux. Haïdara Habibatou Kassambara, directrice d'exploitation du fonds.
Puisque les logements sociaux ne sont pas faits pour être retirés, en cas de décès du bénéficiaire initial, il fallait donc mettre en place un mécanisme qui permet de combler ce vide. Ce vide, c'est quoi? Le non-retrait de la maison.
Ce fonds nous permettra de ne pas nous retrouver dans la rue en cas de décès de nos parents, témoignent des ayants droit.
J'habite avec mes sœurs. Nos parents ne vivent plus. C'est ma petite sœur qui paye les frais. Si elle n'avait pas un emploi, on allait être chassé de la maison. On aimerait adhérer au fonds de garantie pour que le jour où elle ne pourra pas payer, qu'on n'ait pas de problème.
Ce programme facilite aussi le paiement du logement social aux ayants droit, souligne Sekou Demba, directeur général de l'Office malien de l'habitat.
L'objectif, c'est de permettre à ces personnes-là d'avoir cette couverture assurance pour qu'en cas de décès, le fonds puisse prendre le relais pour le remboursement du reliquat des loyers et faciliter donc la jouissance des logements pour les ayants droit. Selon la situation, il y a des frais à payer, mais c'est des montants qui sont quand même très accessibles.
Tous les logements sociaux distribués à Bamako et dans les régions avant 2009 sont concernés par ce programme, explique ses responsables.
Je vous l'annonçais dans les titres. Manifestation à Kaya dans la commune rurale de Awadembaya. Des jeunes en colère ont bloqué hier l'axe Kaya-Luntu où se trouve le barrage hydroélectrique de Felou. Ces jeunes sont regroupés au sein de la plateforme des jeunes pour la rénovation de la route. Ils réclament la réparation immédiate de ce tronçon de plus d'une dizaine de kilomètres. Selon les autorités routières régionales, la réhabilitation de cette route est plutôt du ressort de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et non de l'État. Le point avec Moussa Malé Sissoko et notre correspondant à Kaya, Mamadou Samba Diallo.
Selon la plateforme des jeunes, la route Kaya-Luntu est de nos jours impraticable à cause de son état de dégradation avancée, surtout en cette période d'hivernale. Ces jeunes manifestants regrettent qu'aucune action concrète n'ait entamée pour réparer la voie. Et cela, malgré les nombreuses démarches menées auprès des autorités de décembre à juillet 2021. Modibo Sissoko, un des porte-parole de la plateforme des jeunes pour la rénovation de la route Kaya-Felou.
C'est une distance de 12 km, nous, on ne peut pas comprendre jusqu'à présent. Nous sommes dans la difficulté, les travaux n'ont pas été commencés. Pour cela, ce matin, nous avons décidé de barricader de Kaya jusqu'à Bafoulabé. C'est de 5h du matin à 0h. Ça peut être prolongé.
De son côté, Moustapha Sissoko, directeur régional des routes de Kaya, estime que la réparation de ce tronçon relève de l'OMS. Selon lui, des démarches ont été menées auprès de l'organisation pour la réhabilitation de cette route. Moustapha Sissoko, directeur régional des routes de Kaya.
Vraiment, l'OMS a quand même pu budgétiser cette année. Monsieur Ahmed Jan Simega avait donné un chronogramme à titre indicatif. Il avait dit en conclusion que les travaux allaient commencer en mai. Mais après ça, des équipes techniques ont travaillé réellement sur un chronogramme précis. Donc le 27 juin de ce mois, moi, j'ai personnellement reçu les jeunes. Et quand je les ai reçus, je les ai listés toutes les actions qui ont été menées du 27 juin à nos jours.
Rappelons que cette voie dégradée fait aussi partie de la route nationale 22 Kaïba-Flabé jusqu'à Manantali et Tambaga en passant par Médine et Logo-Sabousiré.
Parlons santé et situation de la COVID-19 au Mali. À la date du mercredi 28 juillet 2021, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 12 nouveaux cas positifs de COVID-19, 4 patients guéris et 0 décès. Ainsi, la situation cumulée est de 14 563 cas positifs, dont 13 934 guéris et 531 décès. Place maintenant à la rubrique Actu COVID présentée par Khalifa Goïta.
Auditrices et auditeurs, soyez les bienvenus à votre rubrique consacrée à l'actualité du coronavirus ActuCovid. Ce matin, nous donnons la parole aux auditeurs qui expriment leurs inquiétudes liées à la COVID-19. Des réponses sont données par des spécialistes de la santé face à ces préoccupations. Suivons les échanges.
Allô docteur, faut-il s'inquiéter des risques du coronavirus encore?
Si on y prend garde, on va voir la quatrième vague. Et la quatrième vague peut être aussi dangereuse que les trois dernières vagues. Faut pas qu'on baisse les bras. Notre objectif, c'est d'avoir zéro cas. Les jours où on verra zéro cas pendant une certaine période, selon les recommandations de l'OMS et les définitions de l'OMS, on dira qu'on a éradiqué. Mais pour le moment, la bataille n'est pas finie.
Le groupe sanguin a-t-il une influence sur les chances de contracter la COVID-19?
Aujourd'hui, l'unanimité n'est pas faite autour de la question pour dire que exactement le groupe sanguin influence le fait d'avoir le coronavirus. Les études qui ont été menées, c'est des études qui doivent être prolongées pour avoir une taille d'échantillon suffisante pour pouvoir donner des vrais résultats.
Allô docteur, une personne guérie de COVID peut-elle recevoir les 2 doses de vaccin sans effet secondaire?
Non, il n'y a pas d'effet secondaire, même si la personne a été infectée. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont attrapé l'infection COVID et qui n'ont pas été au courant, ils n'ont pas été testés, surtout dans nos pays où il y a très peu de dépistage. La vaccination va seulement booster le taux d'anticorps que la personne a. Et même si elle reçoit les 2 doses, elle ne fait qu'augmenter l'efficacité des doses qui sont disponibles chez la personne.
Faut-il porter un masque quand on fait du sport?
On n'est pas obligé, sauf si les conditions du sport nous l'exigent. C'est-à-dire que vous êtes tout seul, vous n'êtes pas obligé de porter le masque, ce n'est même pas nécessaire. Le sport cherche quelque chose et les cellules ont besoin d'une bonne oxygénation. Et le masque va vous priver de cette bonne oxygénation. Sauf si vous êtes contraint de porter le masque parce que vous rentrez dans un sport où il y a le contact physique, il y a le rapprochement avec d'autres personnes dont les statuts sont les mêmes, alors il faudrait porter votre masque.
C'est la fin de ce numéro d'ActuCovid. Merci pour votre écoute. Continuez de suivre les conseils des médecins pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, plus de 73 000 hectares de terrain ont été cédés mardi au conseil régional de Ségou par l'Office du Niger. Cet espace servira à promouvoir les activités d'élevage dans la zone de Daouna entre le cercle de Ségou et celui de Niono, selon les responsables du conseil régional. D'autres activités comme le commerce de bétail, la production et la transformation de la viande, du lait et d'autres produits sont aussi prévus. Le programme a été financé par l'Agence française de développement à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Les femmes du réseau communal de Kolongo se sont réunies mardi à Kayo dans le cercle de Massina. Objectif, faire le point de la situation financière des membres du réseau au cours des 4 derniers mois. À ce jour, les femmes ont à leur actif plus de 3 millions de francs CFA destinés à des petits crédits leur permettant de mener des activités génératrices de revenus. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur mon site web www.studiotamani.com. studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de cette édition, une présentation de Idrissa Sakho. Mais avant tout de suite, le magazine. Le district sanitaire de Kuchala a enregistré en 2020 268 811 consultations, soit un taux de 40% et 440 interventions chirurgicales. Ces chiffres ont été donnés par les responsables de la structure sanitaire. Selon le médecin-chef de ce district, cet établissement public ne dispose que de 128 agents, dont 12 médecins et 85 lits. Le responsable du centre affirme que la structure manque de matériel nécessaire pour faire face aux préoccupations de la population. À Kuchala, des patients se réjouissent du travail des soignants, alors que d'autres regrettent certaines insuffisances. Notre envoyé spécial à Kuchala, Ousmane Ali Bouli, a fait un tour dans ce centre.
Les centres de santé de référence de Kuchala est bien fréquenté, en témoignent les allées et venues des patients. Des responsables du lieu affirment que plusieurs pathologies sont prises en charge sur place. Docteur Youssouf Djamsidibé, médecin chef du district sanitaire de Kuchala.
Actuellement, nous avons un problème avec deux grandes maladies. Les paludismes et la malnutrition. Il y a les cas de cirrhose qu'on voit, les cancers du foie, les diabètes. On voit régulièrement des cas d'hypertension artérielle grave même, avec des accidents vasculaires cérébraux.
Du côté des malades, si certains sont satisfaits du travail, d'autres par contre pensent qu'il faut revoir certaines choses dans la structure.
Je suis venu avec un malade, on nous a bien accueillis. Nous n'avons pas rencontré de difficultés. C'est moi-même qui suis malade. Mon docteur me suit bien et j'ai pas de problème.
Je suis ici pour la radio depuis 8h jusqu'à 17h. C'est ça la difficulté. Mais pour les autres problèmes, c'est normal. Il n'y a pas de souci avec ça.
L'association pour les droits citoyens et de la réconciliation sociale, dénommée l'association Tchikia, qui œuvre pour le bien-être de la population de Kuchala, dénonce des infractions. Selon elle, des enquêtes auprès des patients dénotent des malversations au sein du CCRF. Dissa Ouattara, président de l'association, interpelle les autorités compétentes.
Ce sont les infirmiers, les chirurgiens, ainsi de suite, les matrones, les sages-femmes. Oh, ils les prennent de l'argent aussi. Ça, il faut le dire. En réalité, c'est l'accueil qui manque. Chaque fois, il y a des cas façon. On part voir le surveillant. Ce n'est pas à tous les moments. Ils nous aident parfois. Bon, souvent, il y a des faux pas. Bon, dans ces cas façon, nous, on sera obligé de les interpeller au tribunal ou bien à la police.
Le médecin Serf Sidibé est conscient de cet état de fait. Selon lui, les responsabilités sont partagées sur cette situation.
On a mis un système d'enregistrement des plaintes. Chaque fois qu'il y a un malade qui est victime de ça, il vient se plaindre. Bon, on essaie de gérer le problème. On sensibilise les agents. Bon, aussi, on a essayé de mettre en place un système de motivation du personnel pour éviter ça. Mais vraiment, c'est un phénomène dans nos structures aussi, dont le combat n'est pas du tout facile.
Le plateau technique n'est pas totalement au point pour faire face à toutes les pathologies, rappelle Dr Sidibé. Il précise que ces derniers temps, il y a eu des efforts de la part de certains partenaires, mais pas suffisants pour pallier toutes les insuffisances. De Kuchala, Ousmane Nyalibouli pour Studio Tamani.